Journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Faut-il moderniser Notre-Dame à l'occasion de sa rénovation intérieure? Le diocèse de Paris présente son projet aujourd'hui et il fait déjà polémique. De l'art contemporain au milieu des tableaux classiques, des phrases bibliques projetées en plusieurs langues, c'est Disneyland, dénoncent des défenseurs du patrimoine. À l'instar des salariés du privé, les fonctionnaires réclament à leur tour des hausses de salaire. Le pouvoir d'achat s'invite dans les négociations sur l'avenir de la fonction publique. Dossier complet à suivre. Dans ce journal aussi, à quoi ressemblera la présidence française du Conseil de l'Union européenne? Emmanuel Macron en présente les grandes lignes cet après-midi. Un nouvel essai clinique pour tester le vaccin Sanofi en troisième dose. Et dans le calendrier de l'Avent d'Inter, un très beau carnet de voyage.
Au micro de Yael Gauze, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
France Inter.
À quoi ressemblera Notre-Dame de Paris, Alexis, après sa rénovation post-incendie?
La question est déjà tranchée pour l'extérieur de la cathédrale. L'enjeu maintenant, c'est son aménagement intérieur à l'horizon 2024. Et ça se joue aujourd'hui. Le diocèse présente son projet à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui émettra ensuite un avis, généralement suivi. Mais sans attendre, le débat est déjà très vif, car dans ce projet, il est prévu de moderniser un peu le mobilier liturgique. C'est très critiqué par des défenseurs du patrimoine. 100 personnalités ont même signé une tribune cette semaine dans le Figaro. Alors Rémi Brancato, à quoi ça pourrait ressembler ?
En 2024, ces chants doivent résonner à nouveau lors des célébrations à Notre-Dame. D'ici là, le diocèse doit remplacer le mobilier liturgique endommagé, fini les traditionnelles chaises, place à des bancs amovibles dotés de lumignons. Des œuvres d'art contemporains devraient accompagner les tableaux traditionnels dans les chapelles latérales. Et pour les visiteurs étrangers, des phrases bibliques en plusieurs langues devraient être projetées. Dans la presse britannique, l'architecte Maurice Culot a dénoncé l'entrée de Disneyland à Notre-Dame.
Si vous allez visiter le Panthéon de Rome, on ne va pas mettre des projections sur les chapelles pour expliquer en français ou en chinois. Je trouve ça un peu trivial. C'est des monuments dont la grandeur parle elle-même, mais on ne fait pas ça dans les autres grands édifices.
L'idée est de faciliter le parcours des visiteurs qui entreront par la grande porte, désormais une modernisation qui suscite des critiques.
L'Église se sent hors de l'eau. Elle essaie de rattraper ses fidèles par des accès de modernisme.
L'académicien Jean-Marie Roy estime qu'il faut respecter le passé de la cathédrale.
Je ne crois pas que les fidèles soient sensibles à ce modernisme. Pourquoi est-ce qu'on associerait toujours le contemporain à des chefs-d'œuvre anciens pour les abîmer? C'est une sorte de trahison de ces monuments.
Le diocèse de Paris, déjà bousculé par le départ de son archevêque, ne commente pas avant la présentation du projet à la Commission du patrimoine et de l'architecture.
La présentation du projet ce matin devant cette Commission du patrimoine et vote dans la foulée dès la mi-journée. On sera donc très vite fixé sur les nouveaux habits de Notre-Dame de Paris.
Paris dont la maire, il est 7h33, crée la surprise à gauche.
Anne Hidalgo est maintenant favorable à une primaire à gauche pour la présidentielle. La candidate PS à la peine dans les sondages change d'avis, elle l'a dit aux 20h de TF1 hier soir. 7 postulants à gauche, c'est trop pour la maire de Paris, qui appelle donc au rassemblement et se dit même prête à soutenir un autre candidat si elle n'est pas choisie. Mais dans la foulée, insoumis, écologistes et communistes ont déjà décliné cette proposition. Parmi les gros sujets de cette campagne présidentielle, le pouvoir d'achat, alors que la hausse des prix se poursuit. Dans le secteur privé, les négociations salariales sont lancées dans de nombreuses entreprises et branches. Et dans le public, alors, les 5 millions de fonctionnaires ne veulent pas être les oubliés des revalorisations salariales. L'ensemble des syndicats de la fonction publique réclament donc de nouveau un dégel du point d'indice bloqué depuis le quinquennat Hollande. Ils vont le redire aujourd'hui lors d'une nouvelle rencontre avec la ministre Amélie de Montchalin, Claire Chaudière.
Avec une inflation qui bondit et la fin du quinquennat qui se profile, c'est le moment où jamais, insiste Gaël Martinez pour Solidaires Fonction Publique, de dégeler enfin ce qu'on appelle le point d'indice salarial, d'autant que l'attente, dit-elle, est très forte sur le terrain.
On sent bien dans l'ensemble de la société que cette problématique du pouvoir d'achat elle est en train de monter. Dans le secteur privé, il y a déjà des luttes, des revalorisations. Il serait quand même assez incroyable que le secteur public à qui on a juste dit merci ou donné des médailles, n'est d'autres reconnaissances. Très clairement, ce ne sont pas les médailles qui payent les loyers.
Du côté du ministère, on rappelle que le choix qui a été fait est celui de revaloriser au 1er janvier les plus bas salaires, entre 40 et 100 euros pour plus d'un million d'agents publics, et non d'augmenter tout le monde sur de plus petits montants, entre 7 et 15 euros par mois seulement. Sauf que l'un n'empêche pas l'autre, rétorque Luc Faré pour l'UNSA.
C'est indispensable. Si le gouvernement ne prend pas cette décision, il aura loupé le coche. Il faut que l'ensemble des agents puissent voir que l'inflation reprenant, on en tient compte. Et on se contente pas d'améliorer les plus basses rémunérations.
Sans coup de pouce général, une partie des organisations syndicales menace en tout cas de sortir des discussions sur la refonte plus globale du système de rémunération dans la fonction publique.
Salaires et inflation sur la route de 2022, une campagne présidentielle percutée par la présidence française du Conseil de l'Union européenne. À partir du 1er janvier, pour la première fois depuis 2008, la France prendra les rênes à Bruxelles pour 6 mois et pour l'occasion, retour de la conférence de presse à l'Élysée cet après-midi. Il n'y en avait pas eu depuis le printemps 2019 et la sortie de la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron s'exprime à partir de 16h pour donner les priorités de cette présidence de l'UE. Franck Madvon.
Voilà 13 ans que la France n'a pas présidé l'UE, une période rare dans une Europe à 27, et Emmanuel Macron y voit un atout sur la route de la présidentielle. C'est d'abord une tribune, un moyen de se rendre incontournable, de devenir l'interlocuteur dans les crises du moment. On pense à Nicolas Sarkozy en 2008. Cela dit, son activisme en avait agacé certains, et puis à l'époque, il présidait le Conseil européen. Les institutions ont changé. Cette fois, la France sera à la tête du Conseil de l'UE, qui amende les textes de la Commission. Son influence est limitée. Emmanuel Macron pourra toutefois défendre sa vision de l'Europe. Il assurera le suivi du plan de relance de l'UE face à la pandémie, accompagnera la régulation des plateformes numériques. Il mettra l'accent sur le climat, alors qu'une taxe carbone aux frontières doit bientôt voir le jour. Et surtout, l'europhile Macron pourra se présenter en rempart contre les nationalismes, souveraineté, Europe de la défense, des thèmes qui s'imposent peu à peu. Mais le 20 mars, la période de réserve commence avant la présidentielle. Emmanuel Macron pourrait n'avoir que 2 mois et demi pour vraiment imprimer sa marque.
Franck Madvon, des dérivés d'hydrocarbures dans certains de nos aliments. L'alerte ce matin de Foodwatch. L'association de consommateurs a testé 150 produits en Allemagne, Autriche et en France. Un aliment sur 8 au niveau européen contient des huiles minérales toxiques pour la santé, selon Foodwatch. En France, cela concerne quelques produits, notamment certains bouillons cubes de marque Knorr, Jardin Bio ou encore Auchan. Des huiles minérales issues notamment des machines de production et qui contaminerait les denrées alimentaires. Masque dans la cour de récré, et plus seulement dans la classe. À la cantine, pas de mélange entre les groupes. Le niveau 3 du protocole scolaire entre en vigueur aujourd'hui face à la flambée épidémique. 61 000 cas de Covid hier en France. Mais plus de 12 millions de Français qui ont déjà reçu leur rappel vaccinal. Parallèlement, les scientifiques de l'INSERM lancent un essai clinique. 300 participants pendant un an. L'idée, c'est justement de tester le candidat vaccin de Sanofi en tant que troisième dose et donc de comparer son efficacité à l'ARN messager de Pfizer. Alice Cachaner.
L'essai sera mené dans 11 centres hospitaliers à Paris et en région. Deux groupes de participants seront ainsi constitués. Certains recevront comme troisième dose du Pfizer, un vaccin à ARN messager comme c'est recommandé aujourd'hui par les autorités sanitaires. Et pour les autres, ce sera la solution développée par Sanofi Pasteur, un vaccin plus conventionnel mais pas encore commercialisé, avec une protéine recombinante et un adjuvant. Il s'agira ensuite de comparer les réponses immunitaires, explique Odile Launay, infectiologue et coordinatrice de cet essai clinique.
On va regarder quelle est la quantité d'anticorps produite et surtout quelle est l'activité fonctionnelle, quelle est la capacité de neutralisation de ces anticorps vis-à-vis des différents variants.
Cet essai permettra de savoir si combiner des vaccins différents est plus efficace face aux variants, notamment Delta et Omicron. L'autre intérêt est de tester une alternative aux vaccins à ARN messager.
On sait que certaines personnes ne peuvent pas recevoir une troisième dose de vaccin ARN parce qu'ils ont présenté des effets indésirables potentiellement sévères.
Les résultats seront observés à 3 jours, 15 jours, puis 1 mois après l'injection. Les participants seront ensuite suivis durant 1 an. Une attention particulière sera donnée aux plus de 65 ans puisqu'ils représenteront la moitié des participants.
Et puis au Danemark, la première ministre va devoir se justifier aujourd'hui sur l'abattage en catastrophe de 15 millions de visons en novembre 2020. Mette Frederiksen sera interrogée par une commission parlementaire. À l'époque, les autorités danoises avaient décidé d'abattre tous les visons du pays par crainte d'une mutation du Covid dont certains animaux étaient porteurs. Mais cette décision n'était pas fondée juridiquement. 110 pays invités, mais pas la Turquie, pas la Russie, ni la Chine. Joe Biden organise aujourd'hui et demain son sommet virtuel pour la démocratie. C'était une promesse de campagne du président américain. Colère de Pékin car Taïwan est convié au rendez-vous. Une soirée de foot qui vire au fiasco à Lyon, c'était le 21 novembre dernier, match OL-OM, le Marseillais Payet reçoit une bouteille d'eau, la rencontre n'a jamais repris. Eh bien les sanctions sont tombées hier soir, les Lyonnais perdent un point au classement et le match sera à rejouer à huis clos.
Et un beau livre dans le calendrier de l'Avent du service culture d'Inter.
Oui, vous en avez pris l'habitude, chaque matin une idée cadeau pour les fêtes et la belle surprise du jour nous vient de Cosset, que les fans de BD connaissent surtout pour sa série Jonathan. Le dessinateur suisse revient avec un album de dessins et d'aquarelles, un carnet de voyage très intime. Vous avez pu le feuilleter, Amélie Perrier.
C'est un album à offrir à vos parents en manque de grands voyages depuis le début de la pandémie. Une évasion en 23 étapes. Les Alpes suisses, où vit Cosé, les Cyclades en Grèce, le Japon ou encore le Ladakh dans l'Himalaya qu'il découvre en 1976. Un petit royaume isolé depuis des décennies qu'il a choisi pour décor d'un des épisodes de Jonathan. Il le raconte à Laetitia Gaillet.
Il y avait très peu de photos, très peu de documents visuels de ces régions. Donc je suis arrivé très vite à court de documentation. À ce moment-là, on m'a parlé du Ladakh. Qui ouvrait ses portes, la route était ouverte depuis Srinagar jusqu'à Leh. Et donc j'y suis parti. Et ça a été le début d'une série de beaucoup de voyages dans l'Himalaya.
Des paysages de glace bleue et blanche à couper le souffle, quasi abstrait. Cosé dessine aussi les visages qu'il croise. En Inde, le profil sublime d'Amou, qui se moque de son programme effréné de visite et lui apprend que notre mot avidité vient du sanskrit avidya, qui signifie ignorance. On rêve devant les costumes traditionnels, les scènes de village, et l'on entre aussi dans la fabrique intime des bandes dessinées de Cosé, comment il crée un personnage, en se dessinant, lui, pour éviter, note-t-il, les clones de héros connus. C'est un hymne au dessin d'observation pour échapper aux clichés et tenter de saisir la beauté du monde telle qu'elle se présente à nos yeux.
À l'heure où les dieux dorment encore, le carnet de route de Cosset, un beau cadeau pour 49 euros, c'est édité chez Daniel Maguen.
Merci Alexis Morel, l'édito politique à suivre.